Chapitre 27e, Nouvelle-Hollande. Grain, Sidney Coe, colonisation, mœurs des sauvages. Il faut peu de jours en mer pour s'apercevoir qu'on change de zone, et quoique nulle végétation ne vienne à votre aide, la nature des flots, la couleur de l'atmosphère, le passage des oiseaux voyageurs vous indiquent les différences. L'étude de la mer n'est pas moins révélatrice de ces variations, et de temps à autre, en avançant vers des latitudes plus élevées, nous découvrions, pareil à un îlot noir et pelé que le caprice de la lame recouvrait ou laissait à nu, le dos immense de quelques baleines vagabondes venues jusque-là pour se reposer sans doute de ses combats de chaque jour avec les tempêtes polaires. Les montres marines avaient dit vrai. Devant nous, déchirant un brouillard assez épais, une terre se déploie, s'élargit comme pour tout envahir, se lève et monte, se colore et devient tranchée, afin que nous puissions en étudier tous les trésors et toutes les pauvretés à la fois. C'est la Nouvelle-Hollande, c'est la terre de Cumberland, terre poétique par ses mystères intérieurs, terre précieuse par ses bienfaits présents et sa fortune à venir, terre grande et féconde, car elle a servi naguère à la solution d'un problème moral vainement cherché jusque-là. Oh, ne laissons passer devant nous sans le disséquer aucun de ces plateaux dont les pieds nus plongent dans la mer, et dont les têtes, tantôt chauves, tantôt couronnées d'une belle végétation, forment déjà ces bizarres contrastes que nous attendons à voir à chaque pas. C'est qu'ici tout est étude, même l'uniformité. C'est qu'ici tout est phénomène, même le naturel. Ce n'est point l'Europe, ce n'est point l'Asie. L'Afrique et l'Amérique n'ont pas un roc, n'ont pas un arbuste, n'ont pas une feuille semblable à ceux qu'on trouve à la Nouvelle-Hollande, continent sans pareil, disent les Anglais, et ils ont raison. C'est un monde à part que celui dans lequel nous glissons avec une rapidité désespérante pour notre curiosité. Là, des végétaux vigoureux, étendant au loin leurs bras gigantesques, dont nous n'avons trouvé la silhouette sur aucun continent, dans aucun archipel. Des arbustes capricieux inconnus à nos naturalistes. Plus près de nous, des racines grimpantes imitant les sinuosités onduleuses d'un serpent se chauffant au soleil. Et puis, à l'air, des oiseaux aux cris bizarres, aux plumages bariolés, harmonieux ou discordants, et puis encore, des cris taillés d'une façon étrange, au fond desquels les eaux poussent un mugissement que vous croyez n'avoir entendu dans aucune partie du globe. L'œil et l'imagination sont en extase perpétuelle. Le pinceau échappe des mains, tant il craint de mal traduire les fantastiques prodiges d'un esprit en démence. En général, les premiers plans du paysage, depuis que la côte s'est offerte à nous, sont pelés, nus, âpres et zigzagués par quelques rigoles d'une végétation souffreteuse. Le second plan se part de plus de richesses, c'est déjà de l'opulence, mais dans le lointain se dressent quelques plateaux imposants, sur lesquels le faste de la nature est étalé dans une indécente profusion. Quel pays à étudier! Que nos heures vont passer lentes et rapides! Le jour baisse, la nuit nous couvre de ses voiles, les morts de la côte se dessinent en masses noirâtres sur un horizon violacé, et çà et là, des feux brillants et superposés vous disent que ces déserts, où nulle habitation ne s'est encore montrée à nos regards, ont cependant leurs sauvages visiteurs et leurs hordes nomades. La terre, le ciel, les eaux, les hommes, tout va nous occuper, tout va s'emparer de nous dans cette nouvelle Galles du Sud que nous allons bientôt fouler du pied. Mais là-bas, un feu plus éclatant que les autres projette jusqu'à nous ses rayons périodiques. Le fanal protecteur se montre, s'efface par intervalles égaux, et ici commence la solution de la grande question morale proposée à l'Angleterre et résolue par elle seule. Encore quelques heures, et le pavillon français flottera dans la rivière de Sydney. Encore quelques heures, et nous entendrons des voix amies, et nous retrouverons l'Europe à l'antipode de l'Europe. Nous savions que l'entrée du port était étroite, que débrisant la pointe nord la rende quelquefois dangereuse, que les courants par un vent peu frais pouvaient nous drosser, et la corvette dut se tenir prudemment au large et attendre le lever du soleil. Dès qu'il parut sur l'horizon, la brise garda le silence, puis, par de timides bouffées, elle essayait de nous remarquer jusqu'au port. Nous avancions si peu, que nous eûmes bientôt à craindre qu'une nuit nouvelle ne vînt encore nous visiter au large. Hélas, nous n'étions pas au bout de l'épreuve, et autour de ce pays si riche en phénomènes, tout doit être terrible, solennel, inattendu, incompréhensible. la joie pourtant régnait à bord. Tout à coup la brise se tait, les voiles coiffent les mâts, la flamme papillonnante retombe immobile comme un long serpent sans vie, le disque du soleil se blafarde, semble s'élargir, et jeter autour de lui des rayons coupés comme les éclairs qui sillonnent la nuit. À terre, tout est calme, silencieux, mais la verdure prend une teinte douteuse. On dirait qu'elle est voilée d'un réseau farineux et qu'elle attend une catastrophe, tandis que sur la mer, naguère bondissante, de petits jets phosphorescents remontent et pétillent ainsi que le frais l'eau d'un vase qui commence à bouillir. C'est du repos, si vous voulez, mais le repos de la masse est un mouvement fiévreux de tous les détails. On voit ça et là bondir, comme s'ils étaient poursuivis par un ennemi vorace, de petits poissons qui montent, tourbillonnent et retombent comme frappés de vertige. À l'air, vous voyez les oiseaux, à tire-d'aile, prendre tous la même direction, passer sur la corvette avec des cris sinistres et gagner la côte où tout s'effaçait, alors que le jour commençait à paraître à peine. Chacun de nous, attentif à de si tristes présages, interrogeait tous les points de l'horizon et cherchait à deviner d'où partirait la rafale meurtrière, car l'ouragan était prédit, quoique le baromètre gardât encore le silence. Le ciel était pur, l'air tempéré. Pourtant, de nos fronts découverts, tombait une sueur brûlante, et nos corps, agités par des commotions électriques, se mouvaient par saccades irrégulières et multipliées. Les matelots veillaient et se tenaient prêts au premier signal. Le capitaine non plus ne s'y trompa point et ses brèves paroles retentirent. « Ferme les sabords, ferme les écoutilles, mène et cargue toutes les voiles, laisse porter !» Il était temps. L'espace fut envahi en un clin d'œil. Autour du soleil obscurci, que vous auriez pris pour une lune à son lever au milieu d'épais brouillards, se dressaient des masses bizarres. Des nuages dessinaient mille fantasques contours. Ils se ruaient les uns sur les autres, se confondaient, se brisaient et se séparaient en rugissant. La foudre se jouait dans leurs flancs ténébreux et lançait au loin ses mille langues enflammées, propageant à l'horizon un embrasement général. C'était un fracas pareil à celui de mille cascades dévorantes, des gerbes en feu, des batteries sans cesse en activité, des détonations à ébranler le monde. Et le navire fuyait, appuyé sur les flots par le souffle le plus impétueux, et les torrents d'une pluie pressée criblaient le matelot attaché à sa manœuvre, et l'ouragan nous dépassait pour aller plus loin porter ses ravages. Toute la journée, toute la nuit, nous nous vîmes forcés de fuir la côte hospitalière, où une heure plus tard, nous aurions trouvé un salutaire abri. Aujourd'hui, nous avons 60 lieues à faire encore avant de saluer de nouveau le fanal indicateur. Ainsi, la mer a ses caprices, ainsi partout la déception, à côté de l'espérance et du bonheur. Cependant, une heureuse navigation nous promit bientôt la relâche tant désirée. Nous cinglâmes de nouveau vers le port Jackson, et rien ne s'opposa plus désormais à l'achèvement des travaux auxquels nous nous consacrions depuis si longtemps. Je vous ai dit une terre triste, décrépite, dévastée, la partie ouest de la Nouvelle-Hollande. Voici sur le même continent un sol riche, fort et puissant, que la main des hommes a interrogé avec un succès vraiment miraculeux, et destiné tôt ou tard à assurer la fortune de tous ceux qui viendront y asseoir leurs espérances. Oh, quand après une longue et douloureuse traversée, le navigateur se trouve, pour ainsi dire, en face d'un ciel bleu et paisible, d'une terre jeune et riche, il croit sortir d'un rêve douloureux, et il semble plus orgueilleusement encore défier les éléments qu'il vient de soumettre. La petite île Campbell est le point de terre le plus rapproché de l'antipode de Paris. Après elle, c'est la Nouvelle-Zélande, puis Van Diemen, puis la Nouvelle-Hollande, protectrice naturelle de cet archipel appelé Océanie. 6000 lieues vous séparent de votre patrie. N'importe, le cœur vous bat comme si vous revoyiez, après un long exil, le clocher de votre village, le toit attristé de votre vieille mère. À gauche, en entrant dans la rivière Sydney, un fanal, d'une élégance extrême et d'une solidité à défier le frottement du temps, vous apprend que la belle architecture est connue et fêtée dans ces climats. Vous avancez, et de tous côtés vos yeux surpris, émerveillés, contemplent de fraîches plantations, de vastes jardins avec leurs pavillons et leurs allées de platanes ou de pins d'Italie. Du sein de ces masses colossales de verdure sortent, comme par enchantement, des bâtisses élégantes, coquettes, des maisons comme nos châteaux de plaisance, des châteaux comme nos palais. Et puis encore, si vous interrogez à l'aide de votre longue vue les sentiers de ces sites enchanteurs, vous découvrez, assis sous un chêne vert, adossé à un élégant meuble de campagne, quelques personnes heureuses et parées, se livrant au plaisir de la lecture ou au charme d'une conversation familière, tandis que, tout près de là, une troupe joyeuse de bambins, vêtus comme si l'on avait choisi pour eux, à Paris, les modes de la veille, jouent ainsi qu'ils le feraient dans les monotones et régulières allées des Tuileries ou du Luxembourg. Paris est ici, mais Paris rajeuni et endimanché, Paris avec le mois de mai et un ciel bleu. Lorsque Cook, le plus intrépide, le plus naïf, le plus vrai, le plus consciencieux des navigateurs, eut découvert cette partie est de la Nouvelle-Hollande, si opposée en tout à toute la partie ouest, il se sentit heureux de trouver une rade aussi belle, aussi sûre que celle qu'il appela Botany Bay. Mais plus tard, après la découverte de la rivière qui aujourd'hui baigne Sydney, la baie botanique perdit de sa magnificence et le port où l'on croit encore en Europe que sont envoyés les déportés de la Grande-Bretagne, ne fut plus qu'une vaste rade abandonnée au naturel et où l'on a élevé depuis deux fabriques assez mesquines de draps et de chapeaux. Cependant l'habitude, cette despote impérieuse, conserve encore chez nous ses privilèges et l'on dit toujours en Europe l'établissement de Botany Bay. Excepté ce qu'on a depuis peu emprunté à nos climats, ici tout est au pays et rien qu'au pays. On dira même que les nuages, en passant sur cette terre si vaste et si diversement dotée, changent de nature et de destination. Quand ils grêlent, ce ne sont ni des grains ronds, ni carrés, ni polygonaux. Ce sont des plaques de glace, larges souvent comme la main, et tombant avec la rapidité d'une pierre lancée par un bras robuste. Après un orage, vous trouvez parfois dans les troncs des arbres, incrustés un ou deux pouces de profondeur, plusieurs de ces terribles projectiles contre lesquels les plus solides toitures sont des sauvegardes à peine suffisantes. Là encore, une chaleur de 32 degrés rayée au mur a quelquefois mis le feu aux arbustes desséchés de la campagne, et comme on ne trouverait pas dans toute cette partie du continent un seul morceau de calcaire, le hasard a voulu que des rivières mises à sec par quelques commotions terrestres laissassent sur le sol des couches immenses de coquillages qui, broyés, forment un ciment des plus solides. Ici, la nature humaine est particulière au pays et n'a pas la plus légère ressemblance avec les individus de toute autre région. La Nouvelle-Zélande, si voisine, produit une race forte, belliqueuse, admirable dans sa structure. Ici, hommes et femmes sont à peine au-dessus des singes. Ici encore, mais ici seulement, des ornithorynques, des opossums, des kangourous. On y trouve pourtant des cygnes, mais ils sont noirs, et vous n'en trouvez de noirs sur aucune partie du globe. Oh, que d'études à faire sur cette terre d'horreur et de consolation à la fois! L'on a cru longtemps que les débordements dévastateurs qui envahissaient parfois les plateaux les plus élevés étaient le produit de marées extraordinaires occasionnées par une mer intérieure, et l'on se fondait, pour cette supposition, sur le non-succès des voyageurs à la recherche de l'embouchure de quelques rivières. Aujourd'hui, le doute n'existe plus, de nombreux courants d'eau ont été découverts et remontés à une grande distance. Mais il n'en est pas moins certain que l'intérieur de la Nouvelle-Hollande a de vastes espaces inondés, où les rivières et les torrents roulent leurs flots diversement nuancés et s'ouvrent enfin un passage après une lutte terrible, surtout à l'époque des pluies et des tempêtes. Venons maintenant à Sydney, mais ne vous attendez pas à une description détaillée de la ville. Vous croiriez vous promener dans les belles et larges rues de Bordeaux ou de Marseille, des façades charmantes, des péristyles pleins d'élégance et de goût, des hôtels, des palais, des hôpitaux admirables, puis, dans les rues et sur les places publiques, des femmes mises avec luxe, des tournures parisiennes, de beaux et riches uniformes, des chevaux magnifiques, des équipages somptueux. Vous êtes à Paris, vous habitez Londres, vous n'avez pas quitté l'Europe. Rétrogradons de quelques années, mais de peu d'années seulement, car ici tout est prodige. Des bandes de voleurs dévastaient les rues de Londres. Des brigands armés pillaient et égorgeaient les voyageurs sur les grandes routes. Des escrocs, des fripons, avec leur infâme code écrit, se glissaient dans les familles et jetaient bientôt l'épouvante et le deuil. Et les potences étaient de stériles enseignements, et les prisons, gorgées de malfaiteurs, devenaient insuffisantes à la sûreté des citoyens. Tout à coup, une pensée grande, noble, généreuse, fermente dans une tête. Elle germe, elle se fait jour, elle éclate, et des paroles comme celles que je vais vous lire sont accueillies avec transport par l'Angleterre reconnaissante. Là-bas, près de l'antipode de la Grande-Bretagne, le plus hardi navigateur des temps anciens et modernes a trouvé une terre féconde, un ciel généreux. Eh bien, je vous demande ce ciel et cette terre pour les misérables que la loi frappe ici sans les corriger. Je vous les demande aussi en faveur de ceux que la justice a rendus dangereux pour la société. Là-bas vivent des hordes sauvages et inhospitalières. Jetez autour d'elles ces cœurs avilis, dont la clémence des hommes n'a pas encore désespéré. Créez un cône redoutable sous lequel ils seront forcés de courber la tête et envoyez avec ces courages malheureusement éprouvés les volontés d'autres hommes énergiques qui ne reculeront au profit de tous devant qu'un sanglant sacrifice. Que ceux qui vous auraient fait grâce ici, pour leur donner le pouvoir d'aller régénérer un seul abrupt, ne trouvent plus ni pardon ni miséricorde pour de nouvelles fautes. Que de ce sol, que votre générosité leur abandonnera d'abord comme un bienfait, plus tard comme une récompense, pousse à l'air les richesses européennes dont nous voulons doter cette nouvelle et féconde patrie. Qu'enfin, après le temps des épreuves, chaque déporté, riche des produits qu'il aura acquis par son travail, puisse revoir la métropole, où sa présence alors sera sans danger, car l'habitude de ce travail l'aura rendu à la probité, car un long exil aura fait renaître en son âme le saint amour de son pays, dont nul homme n'est jamais déshérité. Un cri d'admiration retentit dans les trois Royaumes-Unis, les prisons se dégorgèrent, les potences furent plus rarement dressées au regard de la populace avide, les rues et les carrefours de Londres n'exhalèrent plus de fétides émanations, les chaises de poste voyagèrent la nuit sans escorte, et l'on respira plus librement dans les familles. Mais aussi de ce jour seulement pointèrent sous la Tamise étonnée les mâts de quelques vaisseaux préparés pour de longues traversées, et plus tard ils levèrent l'ancre, lestés de vagabonds, de malfaiteurs, de brigands, de filles perdues, sur lesquelles pesaient des bras de fer impitoyables. L'Atlantique fut traversé du nord au sud, le Cap Horn doublé. De l'est à l'ouest, le vaste océan Pacifique, sillonné, vit les baleiniers de toutes les nations saluer avec respect les grands vaisseaux réformateurs. Et après quelques mois de voyage, l'ancre anglaise tombait de nouveau dans une rade belle, large, parfumée, en face d'une riche végétation, en présence d'une nature d'homme dont nul voyageur n'avait encore soupçonné l'existence. Mais à côté de là s'était montré de large une crique profonde. On l'interrogea. On crut d'abord trouver une rivière, et Cook le premier s'y était laissé prendre. N'importe, un superbe port se déployait aux yeux avec une majesté imposante, et tout au bout, un bassin spacieux et tranquille pour la sécurité des navires. Là aussi, une côte bizarrement accidentée disait tout le parti que la naissante colonie pouvait tirer de ses caprices. On se reposa. Les naturels, épouvantés, se sauvèrent dans les bois. Les déportés descendirent et marchèrent enfin sur un sol paisible. On leur dit de bâtir des cabanes pour se garantir des feux du jour et des froids de la nuit. Ils obéirent à la nécessité, et ce fut le premier jour de la plus belle, de la plus riche, de la plus puissante colonie du monde. Qui donc a élevé ces riches et somptueux hôtels? Des coupables que les lois anglaises avaient frappés de réprobation. Qui donc a tracé ces jardins magnifiques rappelant si bien les plus beaux parcs de l'Europe? Des voleurs, chassés de la métropole, à qui la nécessité et peut-être le remords ont donné du génie. Qui est chargé dans ce pays tout exceptionnel de réprimer, de prévenir et de châtier les délits des escrocs? Des vagabonds, qui ont compris enfin que la société est l'harmonie. Il y a à Sydney des écoles publiques où l'austérité des mœurs est prêchée par des bouches jeunes et fraîches. Eh bien, ces bouches faisaient entendre naguère, au pays d'où on les a exilés, des paroles honteuses dont le souvenir s'efface dans de nouveaux et saints devoirs. Partout ici, un contraste perpétuel entre la vie passée et la vie présente. Partout, une lutte chaque jour entre le vice qui avait courbé et la vertu qui redresse, et d'où celle-ci sort presque toujours victorieuse. On dirait qu'un nouveau baptême a régénéré cette population de bandits. On dirait qu'il y a divorce éternel entre les deux natures européennes et hollandaises. Ce sont les deux extrémités d'un diamètre. Mais la corruption n'est pas toujours vaincue. Elle marche toujours la tête haute, en dépit des châtiments et des supplices. Le coupable incorrigible ne croit plus à l'efficacité des paroles du coupable qui lui prêche le repentir. Il s'irrite, au contraire, des leçons de morale tombées de lèvres jadis impures, et rien, en effet, ne doit être plus poignant pour un cœur avili que le retour au bien de celui qui a été de moitié dans ses hontes et dans ses crimes. Aussi, qu'a fait le législateur? Il a placé au milieu de ces hommes chassés de leur patrie d'autres hommes à la conscience droite, à la vigilance active, à l'honneur intact, qui, dès leur arrivée dans la nouvelle colonie, ont eu le droit de parler haut et de lancer de terribles anathèmes contre les redoutables ennemis du repos public. Vous voyez à Sydney, occupant les principaux emplois, distributeur des grâces, régulateur intègre de chaque propriété, des magistrats, des militaires, des législateurs, des ingénieurs, des astronomes, montrant à tous que les arts et les sciences sont frères de l'industrie et que la vraie gloire d'un peuple est sa prospérité. Ici, près du port Jackson, sur une terre magnifiquement parée, sous un ciel généreux, quoique fantasque, en présence du luxe et des bienfaits d'une grande et noble cité, ce que nul ne saurait expliquer, c'est l'existence des hordes sauvages qui vivent et hurlent dans les bois et sur les montagnes sans que rien de ce qui fait chez nous la vie commode et heureuse ait jamais pu les tenter. Est-ce habitude, paresse, soif de toute indépendance qui jette ces êtres si étranges dans les vastes solitudes? Est-ce la longue habitude du vagabondage qui leur a fait regarder en mépris les utiles demeures que nous nous bâtissons? Ou voudraient-ils, avec leur stupide dédain, nous convaincre qu'ils se croient nos égaux, sinon nos maîtres? Ce triste problème, résolu seulement par quelques milliers d'individus, fera reculer tout esprit penseur, toute saine philosophie. C'est la civilisation vaincue et méprisée, les privations préférées à l'abondance. C'est la douleur l'emportant sur tout bien-être, et foulant aux pieds le remède moral offert à toutes les misères du corps et de l'âme. L'idiotisme et la folie ne procéderait pas autrement. C'est qu'en effet, avoir ces charpentes osseuses, anguleuses, disloquées, ces bras, ces jambes, ces épaules étiques, ces fronts déprimés, rétrécis, ces yeux petits et sans animation, ce nez aussi large que la bouche, cette bouche mordant les oreilles, et ces pieds et ces mains si larges et si plats, on devine aisément que rien de ce qui approche de l'intelligence ne peut se loger par là, et que l'on a presque tort d'appeler homme de pareille machine mouvante. Le mandril, le joko, le orang-outan marchent aussi sur deux pieds. Ils sont autrement hommes que ceux qui passent là orgueilleusement à mes côtés sans seulement détourner la tête pour me voir. On permet à ces sauvages de venir à Sydney. On les autorise, je ne sais pourquoi, à se promener dans la ville nue, absolument nue, ainsi que leurs femmes, encore plus hideuses que leurs frères et leurs maris, s'il est possible. Les uns et les autres entrent dans les habitations, présentent quelquefois une peau de kangourou ou de serpent, tendent la main, reçoivent en échange deux ou trois verres d'eau de vie, puis voilà qu'une sanglante saturnale commence. Les vapeurs se sont emparées du cerveau. Des cris éclatants remplissent les airs, des chants farouches s'échappent de poitrines haletantes, des contorsions frénétiques ont lieu, des trépignements fiévreux frappent le sol, deux athlètes se présentent, ils se crachent des injures à la face, ils se heurtent de leurs bras, de leurs épaules, de leur front, ils échangent une bave verdâtre, mousseuse, et armés de leur casse-tête, ils se placent sur la même ligne, ils le lancent à l'air, et celui des deux combattants qui le ramène plus près de la ligne tracée est proclamé vainqueur. Alors, le vaincu, sans autre façon, se pose en face de son ennemi, courbe la tête, étudie en levant un peu les yeux les mouvements de son adversaire, dont le bras tient l'arme fatale prête à tomber, cherchant à tromper l'attention de celui qui veut lui ouvrir le crâne. Si le coup est porté dans le vide, c'est au tour du premier à se soumettre à l'épreuve, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des deux tombe mort sur le sol. Après le duel, les hommes et les femmes s'emparent du cadavre, le chargent sur leurs épaules, l'emportent, vont le jeter loin de la ville, ou dans les flots, ou dans une fosse de 2 pieds de profondeur, sur laquelle frères et sœurs frappent du pied pour niveler la terre. Il n'y a là, pour le présent, ni larmes, ni prières, ni émotions. Il n'y a là, pour l'avenir, ni deuil, ni tristesse, ni désespoir. Tout souvenir est mort. La terre a tout recouvert, tout effacé. Un homme a disparu de la peuplade, c'est tout. Quel est donc le but des Anglais en permettant, en encourageant, en excitant quelquefois ces hideuses luttes? Font-ils de ces hommes ce qu'ont fait des chiens hargneux? Veulent-ils, dans leur insouciance coupable, en laisser éteindre la race? Veulent-ils qu'ils se détruisent les uns les autres? Je comprends leur mépris. Je m'explique leur dégoût. Mais l'humanité n'a-t-elle pas aussi ses devoirs? Et de pareils tableaux devraient-ils enfin être offerts au milieu d'une cité belle, florissante et polissée? Je dînais un jour chez une des familles les plus riches et les plus considérées du pays. Au dessert, un signal fut donné par le maître de la maison. Deux valets descendirent, emportant avec eux une bouteille de rhum, et à l'instant après, Un horrible tumulte éclata dans une cour voisine. Les dames se levèrent, prirent place à une croisée, et m'invitèrent à profiter de l'occasion qui m'était si galamment offerte. Je les suivis donc, et deux combats, pareils à celui que je viens de vous conter, eurent lieu sans que le cœur de ces dames en fût ému le moins du monde, sans que leur front rougit des hideuses nudités de ces horribles bêtes fauves qu'on venait d'enivrer. C'était une des réjouissances de la soirée, c'était un divertissement qu'on m'avait gracieusement préparé. Après la fête, on emporta deux cadavres et le thé fut servi au milieu des éclats de rire de l'assemblée. Si les femmes ne se provoquent pas, ainsi que les hommes, à ces duels meurtriers, c'est qu'elles n'ont pas souvent la permission de boire des liqueurs spiritueuses, car, victimes dociles de la volonté de leur mari, elles ne reçoivent que ce que ceux-ci veulent bien leur aumôner, et la tendresse de ces brutes ne va jamais jusqu'au sacrifice d'une goutte de rhum ou d'un morceau de viande dont les chiens même ne voudraient pas. Quand l'homme est repu, sa femme prend timidement sa chétive part. Malheur à elle, si elle acceptait ce que vient offrir la générosité européenne. Elle ne le refuse pas, mais elle le garde pour le donner à son mari ou à son frère, et celui-ci ne daigne seulement pas la remercier par un mot ou par un sourire. Chacun crut faire son devoir. C'est le lion qui s'est donné sa part, c'est le tigre qui se vautre dans le sang dont il ne veut plus, et dont pourtant il défend l'approche à tout rival. Le sauvage de la Nouvelle-Galles du Sud est la personnification du crétinisme, de la lâcheté, de la bassesse et de la férocité réunies. Dans l'intérieur des terres, il se nourrit de larves, d'insectes, de fourmis, de serpents et de quelques kangourous blessés. Jugez donc de sa joie lorsque, sous le hangar où on l'abrite, on lui apporte quelques aliments capables d'apaiser la faim de chaque jour. Voir accroupi autour d'un gros morceau de viande sanguinolente, 8 ou 10 sauvages de ces contrées, c'est le spectacle le plus triste, le plus douloureux et le plus effrayant que l'on puisse imaginer. Vous entendez au milieu des craquements de dents et des reniflements sonores un grognement perpétuel, semblable à celui d'une meute de loups affamés à qui les chasseurs veulent disputer leur proie. Vous croiriez entendre le glouglou fétide de ces égouts putréfiants dans lesquels s'engouffrent les immondices d'un charnier qu'on purifie. Je vous l'ai dit, les femmes ont les restes, les os. Quand les os et les restes ne sont pas emportés par ces bêtes fauves, cruelles et voraces. Les besoins de la vie, contre lesquels ils sont forcés de lutter sans cesse, leur ont donné pour certains exercices une puissance qu'on serait loin de leur supposer. Les sandwichiens ne sont peut-être pas plus adroits qu'eux à lancer leur sagaie. Et j'ai vu ici deux sauvages à peine âgés de 15 ou 16 ans, excités par l'appât d'un mouchoir que j'avais promis au vainqueur, viser contre le tronc d'un arbre situé à plus de 30 pas de distance, l'atteindre presque toujours et y laisser de profondes traces de la rapidité du dard. Une autre fois, dans le jardin de M. McIntosh, un des officiers les plus distingués de la garnison de Sydney, j'ai vu quelques sauvages, renommés pour leur adresse, s'essayer à faire passer leur sagaie dans un trou de 2 pouces de diamètre, percer une planche fixée à terre, approcher constamment du but, et l'un d'eux même, après un certain nombre d'épreuves, parvint à faire traverser le trou de bout en bout à son arme lancée à 25 pas de distance. Leur adresse à se servir de leur casse-tête est merveilleuse aussi. Ils le jettent en l'air à une hauteur prodigieuse, ils lui font faire 1000 curieuses évolutions, et placés fort loin l'un de l'autre, 2 jouteurs se renvoient leurs armes circulaires, comme nous le faisons, avec des volants et à l'aide de nos raquettes. Intrépides à la course, féroces dans les combats, surtout dès qu'une liqueur enivrante s'est emparée de leur cerveau, ils n'ont aucune énergie contre les Européens qui les dominent et que cependant ils ont l'air de dédaigner. Ainsi que je vous l'ai dit, de près surtout, craignez d'attaquer un de ces sauvages s'il est armé de son casse-tête et surtout de son casse-tête recourbé. Mais si vous vous trouvez en présence de 4 ou 5 de ces individus désarmés et disposés à vous combattre, ne fuyez pas, allez à eux. D'un coup de poing, vous êtes sûr de renverser celui que vous pourrez atteindre, et il ne serait pas surprenant que le choc fît tomber son voisin. J'ai essayé ma force un jour contre 3 des plus vigoureux jeunes hommes d'une bande de ces naturels, et je n'eus pas grand-peine à les jeter tous 3 à terre, quoiqu'on ne m'ait jamais cité pour un bien vigoureux athlète.